Albert Sim, Césarin, histoire d'un vagabond. Durant près d'un demi-siècle, Césarin le mendiant et le trait de misère, a joui d'une célébrité sans égale dans la gaie petite ville de Bar-le-Duc et ses pittoresques entours. On pouvait ne pas connaître messieurs les sénateurs et députés du département, non plus que monsieur le maire et monsieur le préfet, passer près d'eux par conséquent sans les remarquer et les saluer, mais Césarin, petits enfants en lisière et vieillards à béquilles, tout le monde le connaissait, tout le monde le désignait ou l'interpellait par son prénom. « Ah, voilà Césarin qui se promène. Bonjour, Césarin !» De nom, on lui en savait, on lui en a pas, je crois, jamais su d'autre. Se promener, déambuler à travers les rues de la ville, aux abords de la gare principalement, et le long du boulevard de La Rochelle, devant l'hôtel du commerce et l'hôtel de Metz, guetter et reluquer les passants, parfois leur jouer sur un petit flageolet, et avec son nez, quelques piètres ritournelles, les poursuivre de sollicitations et de quémanderies tout à fait dépourvues d'artifice, naïves, familières, impudentes, insolentes. « Voyons, monsieur Adelot, vous me donnez des bains de sous, c'est pour boire la goutte. J'irai pas encore buer d'aujourd'hui, ma parole. Et ça manque, cela. » Je ne monte qu'un sou, monsieur Colombet, un pauvre petit sou. C'est pas le diable. Vous pouvez bien me le donner, vous qui êtes riche. Faut s'entraider en ce bas monde. Comment, monsieur Bristol, vous refusez un sou au pauvre Césarin? C'est pas votre père qui a fait ça, pour assurer. Un brave homme, votre père. Oh, le père Bristol, qui était boulanger à Couchot, en face de Notre-Dame. Puis aller s'étendre au soleil en hiver, à l'ombre en été, sur l'asphalte d'un trottoir ou les marches d'un perron, et y ronfler aussi bruyamment qu'un tuyau d'orgue. Tel était, sans préjudice de ces nombreuses et interminables stations dans mains, cabarets et bouchons, l'emploi du temps, l'horaire de maître Césarin. Au début, entre 20 et 30 ans, il avait, paraît-il, cherché à utiliser la force de sa poigne autrement que dans le maniement du flageolet. On l'avait vu scier et fendre du bois devant les portes, charger ou décharger des bateaux sur le quai du canal, transporter à dos ou sur brouette des colis du bureau de la diligence à domicile et vice-versa. Mais il s'était vite lassé de ses serviles besognes et avait préféré la soucieuse liberté du bohème, le dolce far niente du Lazzarone. D'une taille un peu au-dessous de la moyenne, courtaud, membré et rablé, Césarin avait de gros yeux bleus, une bouche lipue et forte, un teint de brique. Son menton, comme celui du paysan du Danube, nourrissait une barbe touffue, hirsute et d'un blond roux. Ses cheveux, de même nuance, tout embroussaillés, étaient recouverts d'une casquette graisseuse, le plus souvent privée de visière. Il était vêtu, soit d'une blouse de cododate bleue en lambeaux d'ordinaire, soit de quelque sordide paletot qui lui tombait sur les talons et qu'il devait, ainsi que la casquette et le reste, à la compatissante générosité de tel ou tel de ses concitoyens. Il eût été difficile à l'époque où je le rencontrais dans les rues de Bar-le-Duc de lui assigner un âge. On pouvait lui donner 40 ans, aussi bien que 60 ou 65. Si tout le monde le connaissait, en revanche, il connaissait tout le monde, et par le menu savait l'origine, la généalogie et les tares surtout, les plus lointaines et les plus secrètes souillures ou blessures de toutes les familles, toute la chronologie scandaleuse de la ville, et ne se gênait pas, dans ces moments d'ébriété particulièrement, pour rappeler aux gens leur passé, leur décocher, sans s'émouvoir et comme en badinant, les plus désagréables et humiliantes vérités. « T'es pas la peine de t'en faire la fière, allez, mame de Couvange. Mame la baronne de Couvrange. On sait bien que vous vous appeliez tous là, étant demoiselle, et que votre mère vendait de la charcuterie dans la rue des Pressoirs. J'ai été assez souvent lui acheter des cervelas. Vous étiez toute petite. Vous avez beau vous flanquer du rouge et du blanc sur la frimousse, Mame le Vanneur. Vous n'en avez pas moins la cinquantaine, maçonnée. Dites pas non. Je me rappelle encore la date de votre mariage. C'était en 49, un lendemain de fête-dieu à Saint-Antoine, du temps de l'abbé de Rosières. Oh, vous étiez plus mince qu'à présent, tout de même. Ivrogne, vous m'appelez Ivrogne, monsieur petit prêtre? La belle trouvaille. Chacun sait bien que Césarin aime à lever le coude. C'est pas un mystère, ça. Mais Césarin n'a jamais fait faillite. Lui, il peut marcher la tête haute. Ivrogne peut-être, mais honnête. Vous entendez, monsieur petit prêtre? Tandis que votre grand-père, j'ai vu son nom affiché comme banqueroutier. C'était sous Louis-Philippe. Oh, je m'en souviens bien, allez. On comprend sans peine que pour éviter ou faire cesser de pareilles algarades, les intéressés, la plupart tout au moins, n'hésitaient pas à mettre la main à la poche et à en tirer quelques menus mais solides arguments que le cynique personnage acceptait sans sourciller comme chose due avec un « Merci, monsieur le petit prêtre. Merci bien, madame le vanneur, à une autre fois. » Il paraîtrait même, et peut-être n'est-ce là qu'une odieuse supposition, une méprisable calomnie, que certaines gens, en guerre avec d'autres, confiaient à Césarin, et moyennant finance, bien entendu, le soin de houspiller et hurlupiner leurs adversaires, de leur chanter pouille en pleine rue, et en présence d'une foule nombreuse, au sortir de la grand-messe du dimanche, par exemple. Mais Césarin ne procédait pas toujours par intimidation. Il avait au contraire, pour attendrir ses concitoyens et se faire ouvrir leurs escarcelles, recours le plus souvent à la ruse et à la flagornerie. M. Daillot, le conseiller de préfecture, en a maintes fois eu la preuve. Et bien qu'il ne fût pas dupe de la rouerie du paroissien, il ne lui tenait pas rigueur et lui allongeait volontiers son effarande. Fils d'un général du Premier Empire, inhumé en pleine place dans le cimetière de Bar, M. Daillot avait l'habitude, chaque matin avant de se rendre à son bureau, de fumer son cigare devant sa fenêtre. Une fenêtre du rez-de-chaussée donnant sur la petite rue du Coq, et qui ne manquait pas d'ouvrir pour peu que le temps ne fût ni pluvieux ni trop froid. Césarin connaissait cette particularité. Aussi prenait-il fréquemment, à cette heure-là, le chemin de la dite rue. Et voici l'invariable petit dialogue qui s'établissait entre M. le conseiller et le futé mendiant. « Bonjour, M. Daillot. »« Bonjour, Césarin. » »« Ça va-tu toujours comme vous voulez, M. Daillot ?»« Mais pas mal, et toi, Césarin ?»« Oh, ça va comme un homme qui revient. » Oh, vous ne verriez jamais d'où je reviens, monsieur Daillot. Non, d'où donc, Césarin? Du cimetière, monsieur Daillot, du cimetière de Sainte-Marguerite. Voyez-vous, je ne suis pas passé devant sans entrer. C'est plus fort que moi. Faut que j'aille m'agenouiller sur la tombe de ce brave général. Ah, en v'là comme on n'en fait plus. En v'là comme il en faudrait beaucoup. « Ben, c'est un rude père que vous avez là, monsieur Daillot, un grand homme. »« Ah oui, c'est ce que je ne cesse pas de répéter, le général Daillot. »« Ah, le général Daillot, en voilà un qui fait honneur au pays, qu'on est fier d'être de chez lui. »« Aussi jamais je passe là-bas, devant la porte Sainte-Marguerite, sans faire une visite à sa tombe. »« Je te remercie, Césarin, de ses sentiments. » Ça part duquel, M. Daillot? Oh, je n'en doute pas. Au revoir, M. Daillot. Au revoir, Césarin. Dites donc, M. Daillot, vous n'auriez pas de sous à me donner pour boire la goutte? Je suis si altéré de la course que je viens de faire. Et puis, il fait si chaud. Oh, merci bien, M. Daillot, merci bien. Oh, le général, grand général Daillot, oh, v'là qui, oh, v'là donc, oh. Et tous ces tours et rubriques n'empêchaient pas César de vanter et fanfarer à tout propos son honnêteté, sa probité. Jamais fait tort à personne, moi jamais. Où est-il celui à qui a se plaint de Césarin ? Qui se monte, qui se nomme ? Ivrogne mais honnête, tel était, on l'a vu plus haut, son mot favori, sa devise. Cette honnêteté était même si bien connue, cette réputation si bien établie, que certains négociants n'hésitaient pas à faire opérer leur recouvrement par Césarin en personne. Ils avaient soin, par exemple, de le prévenir et s'assurer de lui dès le fin matin, avant qu'il eût entrepris de tuer le ver. Autrement, et malgré toute sa bonne volonté, l'attention et la scrupuleuse délicatesse du personnage, il aurait pu se trouver du mécompte le soir dans sa recette. Venait-il devant une de ses tournées à rencontrer quelques copains comme lui, franc buveur et joyeux de riz, qui lui proposait de s'arrêter un moment, d'entrer là au coin et de licher une goutte au galop sur le pouce. Non, ma vieille, Césarin ne liche pas quand il porte l'argent qu'on lui a confié, répliquait-il avec un sérieux tout empreint de dignité. Lorsque Césarin l'a fini, oh, alors bien, il se rincera le nez un peu chouettement, je te prie de le croire. Tout à ton service alors, t'as qu'à m'attendre là et c'est moi qui les garderai. Il poussait même le rigorisme si loin qu'ayant un jour de juin été chargé d'un message par un commerçant véreux, ancien failli devenu prêteur à la petite semaine, comme celui-ci lui demandait s'il ne prendrait pas bien un verre de vin pour se rafraîchir. Ça se refuse jamais, n'est-ce donc pas, Césarin ? Ici au vol, je vois pas, riposta notre homme en tournant les talons. Faut bien rire était, avec ivrogne honnête, sa locution la plus habituelle, une sorte d'épiphonème qu'il lançait comme un point d'orgue à la fin de chaque période de ses clabaudages et diatribes. Sans doute parce qu'il s'était ingénié et était parvenu à jouer du flageolet avec son nez, Césarin avait certaines prétentions en musique et se croyait un connaisseur. Je le vois encore un dimanche de Pâques à l'église Saint-Étienne, écoutant le chant des orgues et battant la mesure de la tête et du pied, en donnant par instant des marques d'approbation ou d'improbation. Mais où Césarin apparaissait avec tous ses avantages, dans toute sa splendeur, c'était aux fêtes du mariage, quand, sous prétexte d'ouvrir les portières et de tendre la serviette destinée à protéger du contact des roues les robes des invités, il avait réussi à se faufiler à la suite de la domesticité et attraper sa part du festin. Quelle franche lipée ce jour-là ! Quelle formidable beuverie ! C'est au sortir d'une de ces bombances que ce disciple de Panurge, disciple tout à fait inconscient et qui bien certainement n'avait jamais ouï parler de son maître, posté sur le petit pont à l'angle de la caserne, admonissait dans ces termes les soldats de la garnison. Voyez-vous, mes enfants, moi, dans ma vie, j'en ai bu toutes les broches du blanc, du rouge, du bon et du mauvais. Mais il n'y a personne à barre qui en ait bu autant que moi. Autant que Césarin, personne. Voilà ce que vous pourrez affirmer sans crainte partout, mes enfants, quand vous rentrerez dans vos foyers. Autre mot typique de lui, vrai mot d'ivrogne impénitent, indégrottable. Un jour que, profitant sans doute encore d'un repas de noces, il avait trop ingurgité d'un certain vieux vin de Pinot et se trouvait incommodé tout en hoquetant, le front appuyé contre un mur à un coin de rue. « Ce sacré Pinot de la Comète, grommelait-il, mais c'est qu'il est encore bon en le passant. » Des mots de lui, d'amusantes ou impertinentes et cinglantes reparties, C'est par milliers qu'on en pourrait citer. Vous dites que je suis sous, monsieur Collignard ? C'est bien possible. Mais Césarin n'est pas comme vous, lui. Il aime mieux être sous que d'être bête. Ça dure moins longtemps. Soyez tranquille, monsieur X. On ne peut pas être élu député, mais on est toujours certain de rester mari trompé. Plein l'avantage. C'est à peu près en ces termes qu'il apostrophait au lendemain d'une élection un ex-représentant du peuple célèbre par ses mésaventures conjugales. Trois archiprêtres s'étaient succédés dans l'espace de 15 ou 20 ans à l'église Notre-Dame. Messieurs les abbés Barry, Gallet et Tripier. Voici de quelle façon Césarin résumait son opinion sur ses ministres du Seigneur. Oh, la galette ne valait pas le baril, mais la tripe vaut encore mieux que la galette. Ce qui ne l'empêchait pas d'ajouter que s'il absorbait autant de canons, c'était pour arriver plus vite à la canonisation. Un matin, vers les 10 heures, le secrétaire de la mairie, M. Michaud, l'envoie quérir pour je ne sais quelle affaire de police municipale. Maître Césarin, qui avait un culte tout particulier pour l'eau-de-vie de marc du pays, avait déjà lampé une demi-douzaine de petits verres ou godots de l'odorant liquide et exhalait un fumet aussi capiteux que désagréable. Oh, n'approchez pas si près, Césarin, s'écria M. Michaud en se bouchant les narines. Oh, le bouc, pour le vous sentez. Non, monsieur Michaud. Comment non? Oh, je vous dis que si, moi. Bon, bien, pardon, monsieur Michaud. Je pue, c'est possible. Mais c'est vous qui sentez. D'autres fois, faisant allusion précisément à cette quantité de godot d'eau de vie de marc qu'il absorbait, Césarin mourra de la goutte, vite ou comme les feignants, les vieux Richard. Autant cette maladie-là que d'autres, pas vrai, faut bien rire. Et ses farces, les si imaginées par lui pour faire pièce aux gens qu'il avait pris en grippe, les vexations et persécutions, obstinément et sans relâche déployées contre eux. Vers le milieu de la rue des Tanneurs habitait une dame veuve, Madame Brichon des Aubrais, dont la maison avait une sortie par derrière sur la rue des Pressoirs et se terminait par une vaste remise ou foulerie. Cette foulerie se trouvait construite en dehors de l'alignement des immeubles voisins et faisait sur cette rue des Pressoirs une saillie énorme de 2 ou 3 mètres pour le moins. Il en résultait que la rue, en cet endroit, se resserrait tout à coup, devenait soudainement étrangement étroite, ce qui gênait beaucoup la circulation. Une autre gêne, plus sensible encore pour les habitants d'alentour, provenait des dépôts variés, mais non dépourvus d'émanations, qui s'effectuaient jour et nuit dans les angles de cette bâtisse. Tout le quartier pestait contre la remise de Madame Brichon des Audrets et ne cessait de réclamer au nom de l'hygiène, aussi bien que de la morale, la suppression de cette honteuse et permanente sentine. La municipalité s'émut à la longue et prit un arrêté, déclarant que toute construction dépassant l'alignement ne pourrait à l'avenir être l'objet d'aucune réfection ni réparation, et devait être jetée bas dès que son mauvais état compromettrait la sécurité des passants. À dater de ce moment, chaque fois que Césarin s'arrêtait à une des encoignures de la remise Brichon, c'est-à-dire à peu près tous les jours et souvent plutôt 3 fois qu'une, il ne manquait jamais d'allonger quelques vigoureux coups de talon contre cette muraille et d'en faire choir crépi ou moellon. Il gardait de vieille date une dent contre cette Madame Brichon des Aubrais, qui avait l'impardonnable tort, ainsi qu'elle l'avait averti en une imposante circonstance, de ne pas aimer les ivrognes et de ne vouloir jamais rien leur donner. « Grand merci !» lui avait-il répondu avec un beau salut, mais en se promettant bien dans le fond de son âme de lui revaloir cela d'une autre façon. Elle finit par s'apercevoir du dégât et en découvrit l'auteur. « Mais pourquoi donc, Césarin, vous permettez-vous de dégrader ce mur ?» lui dit-elle un soir qu'elle s'était embusquée derrière la porte de sa foulerie. « Oh, ne niez pas, c'est pas la peine, je vous ai vu. » « Mais je n'y pas, madame Brichon, j'ai pas d'une mal envie. Oui, c'est moi. » « Et qui donc alors vous a chargé de... « Oh, écoutez, madame Brichon, tout le monde se plaint de votre foulerie. Elle est pour tout le monde une cause d'inconvénients, de désagréments, d'infections. Ces inconvénients, c'est vous et vos pareils qui les occasionnez, » interrompit la propriétaire. « Si vous ne veniez pas salir ce coin... » Mais tout le monde l'a maudit, votre foulerie. Tout le monde aspire à la voir disparaître, continua Césarin, sans s'occuper de l'objection. Demandez un peu à vos vis-à-vis, à madame Garaudel, au père Vautrin, le grand Kiki Vautrin. Interrogez madame Michelot, les Parmentiers, les Chevillot, les Finoël, les Geoffroy, les Hutin, Varneroux le Tourneur, Lacaille le Serrurier, le père Gérard, le cafetier, le pauvre chien, comme on l'appelle, fait une enquête dans toute votre rue. Mais cela ne vous regarde pas, Césarin. De quoi vous mêlez-vous? Et vous verrez un peu si je dis vrai. C'est une peste pour tout le monde que votre foulerie. Eh ben, je peux pas contenter tout le monde, et puis vous encore par-dessus le marché, mme Blanchon. Non, pas vrai, hein, pas mèche. Ça, c'est un peu fort, mais est-ce que vous êtes chargé de prendre la défense? Impossible, faut choisir. Eh ben, tout le monde et vous, mon choix est fait. Car c'est tout le monde, vous entendez, tout le monde. Mais qui donc, encore une fois, vous a prié? A-t-on jamais vu? N'en faut plus de votre foulerie. On n'en veut plus. Faut la raser, faut l'aligner, madame Brichon. Et vivement, plus vite que ça. Un de ces quatre matins, dégringolant sur le dos de quelques honnêtes citoyens comme moi, vous serez cause d'un malheur, d'une catastrophe, faut en finir, madame Bichon. » C'est effectivement à ce parti que dut se résigner, et sans plus tarder, madame Bichon des Aubrais. Des murs si solides, qui demandaient qu'à rester debout, qui auraient résisté des siècles et des siècles, soupirait la vénérable dame, tandis que les maçons manœuvraient leurs pioches. « Oh, le maudit Césarin !» Pendant longtemps, tout le temps de son séjour à Bar, M. Enoch, substitut du procureur impérial, fut lui aussi une des têtes de turc de cet insolent roi du pavé et souverain du ruisseau. Un jour qu'il pleuvait, Césarin rencontre M. Enoch au moment où ce magistrat descendait l'escalier du tribunal et ouvrait un superbe parapluie de soie violette à manches garnies d'ivoire. « Oh, le beau parapluie, comme monsieur Enoch! Oh, le beau parapluie! Mais voyez donc le beau parapluie qu'il tient, monsieur Enoch! Oh, le beau parapluie! Oh non, parole d'honneur, j'ai jamais vu un aussi chouette parapluie! Mais regardez donc, admirez donc, etc., etc. » Il avait emboîté le pas au substitut et lui serinait cette ritournelle tout le long des rues, conviant les passants à s'arrêter, à faire chorus avec lui. À deux ou trois reprises, M. Enoch se retourna et invita Césarin à le laisser tranquille. « Mais je vous parle pas, moi, monsieur. C'est à moi que je cause. Oh, le beau parapluie, le beau parapluie !» Une autre fois que le même magistrat sortait de chez le chapelier Jolion avec un couvre-chef tout battant neuf, c'était la gamme inverse. « Ben, vieux chapeau que vous avez là, monsieur Enoch, un bien vieux chapeau. Ça ne vous durera pas longtemps, allez. D'ailleurs, pour avoir du beau et du bon, faut y mettre le prix, et tout le monde sait que vous êtes trop le gardant, vous trop liardeur. » Bien sûr que ça vous a pas coûté cher, ce cas-là. Vous avez pas dû le payer plus de 35 sous, je gage, et encore. Hein, j'ai deviné. 35 sous au plus. Ça explique pourquoi on vous flanque de la cablotte, parti. C'est clair, à ce compte-là. Bon, il est vraiment pas chic, votre chapeau. Fichtre, non. Pour un homme bien, un homme comme il faut, un magistrat vrai, c'est pas fait l'honneur. Oh là là, regardez donc l'affreux chapeau qu'a M. Hénoc. N'est-ce pas que ça lui va pas, que ça lui fait une sale tête, hein? Oh, je voudrais pas, moi. César lui-même n'en voudrait pas être coiffé comme ça, il aurait honte. Sans s'émouvoir des injonctions et menaces du malheureux substitut, César, hein, continuait son boniment et ne lâchait pas son homme. Il appelait ça lui faire un pas de conduite. Le cynique garnement ne craignait pas, comme on le voit, de s'attaquer aux puissants de la terre. C'était même à eux qu'il s'en prenait le plus volontiers. Et le préfet Borriquet figure aussi sur la liste de ses victimes. Chaque fois que Césarin, en compagnie de quelques malandrins de son espèce, venait à rencontrer ce fonctionnaire, il ne manquait jamais, en passant, de crier à son acolyte: « Tais-toi donc, tiens! T'es encore plus bête que le préfet! » Si probe et scrupuleux qu'il fût, Césarin s'arrangeait chaque année pour faire 3 ou 4 mois de prison. Les vendanges terminées, le vin rentré, vers la fin d'octobre ou la mi-novembre, on entendait le pauvre hère grommeler tout en se traînant le long des boutiques: V'là le froid qui arrive! Césarin, mamie, faut aller à ta maison de campagne! Il est temps, mon vieux! Cette maison de campagne, toute différente de celle des citadins cossus, bonne à habiter seulement pendant l'hiver, était un vaste bâtiment aux fenêtres grillées et entouré de hautes et épaisses murailles, situé au sommet de la ville à l'extrémité de la place Saint-Pierre. Et quelques jours plus tard, inculpé soit de tapage injurieux ou nocturne, soit d'ivresse publique, soit d'outrage envers l'empereur ou la République ou les représentants et dépositaires de l'autorité, et condamné en conséquence, mon Césarin, flanqué de 2 gendarmes et escorté d'une troupe de gamins qui l'acclamaient, gravissait tout guilleret la côte Gilles de Trèves et la susdite place et s'engouffrait derrière la lourde porte à guichet de sa maison de campagne. Il y était du reste parfaitement traité, on avait pour lui tous les égards dû à sa haute renommée. Monsieur Richard, le gardien-chef, l'employait invariablement comme aide-marmiton. C'était lui qui épluchait les légumes, récurait et astiquait les casseroles, lavait ou balayait les dalles de la cuisine et des corridors adjacents, etc. Il était là, bien au chaud, bien nourri, bien tranquille, et avait encore la ressource d'agripper presque à chaque repas quelques fonds de bouteille que lui permettaient de ne pas oublier tout à fait le goût du vin. Là encore, sa réputation de probité l'avait suivi et servi, et ce n'est qu'après avoir mis son prisonnier à l'épreuve que M. Richard lui avait octroyé sa confiance. Un jour, en balayant un escalier, Césarin découvrit une pièce de 20 sous posée là tout exprès. Comme le rusé gaillard ne manqua pas d'en faire en lui-même la remarque, tout exprès pour tenter sa convoitise. Il ramassa la pièce et quand le gardien-chef vint à passer, la lui présenta. Voici ce que j'ai trouvé au bas des marches, monsieur Richard. Je vous la rends pour cette fois, ajouta-t-il en clignant de l'œil, mais faudrait pas recommencer. Voir juge et Césarin était un spectacle du plus curieux, la plus désopilante comédie qu'on pût rêver. Le drôle avait la langue fort bien pendue, ainsi qu'on a déjà pu s'en apercevoir, et connaît assez admirablement la réplique au président. Je me souviens d'avoir assisté à l'une de ces représentations. J'étais externe au lycée et j'avais pour condisciples 2 fils d'avoués, Ferdinand Bonne et Paul Hess, qui ne manquaient pas de nous avertir lorsqu'une affaire Césarin était inscrite au rôle. Un matin, en sortant de classe, Je me laissai guider par mon ami Bonne et nous pénétrâmes dans la salle du tribunal. À force de jouer des coudes, nous réussîmes à fendre la foule et à nous hisser sur un des bancs de chêne adossés au mur. La cause appelée, voici aussi fidèlement que ma mémoire me le permet, le dialogue qui s'engagea entre le débonnaire président du tribunal, l'excellent M. d'Hervincourt, et l'illustre Césarin. « Comment, Césarin, c'est encore vous ?»« Encore, oh, M. d'Hervincourt, c'est un mot de reproche. Je me plains pas de vous, moi, vous voir, vous assure. »« Eh bien, nous nous en plaignons, nous, Césarin, nous nous en fatiguons. C'est honteux. » Voilà la 31e fois que vous comparaissez devant la justice. 31 hiver passé au chaud, tant que ça? Oh, je croyais pas. Votre première condamnation remonte à 1835. Tapage et injure, déjà. Ouais, oh, c'était du temps du père Boudard, un vieux président à cheveux blancs, qui avait une loupe sur le front. Vous l'avez pas connu, vous, monsieur d'Hervincourt? Taisez-vous, Césarin. Puis encore tapage, 1839, 1840, 1841, bride clôture en 1843. Ah oui, je me souviens, un malheureux coup de coude dans un carreau. Oh, voilà-tu pas une affaire. 1844, mendicité. 1845, mendicité encore. Mais jamais pour vol, M. d'Hervincourt. Césarin n'a jamais fait tort à qui que ce soit. Demandez un peu. Outrage et voie de fait, 1846. Oh, ça, c'était du temps de M. Matelin. Pas comme tous les jours, le président Matelin. On lui a fendu l'oreille en 48 et il est allé planter ses choux. Assez, n'est-ce pas, Césarin? En 1854, vous êtes condamné à 3 mois de prison pour mendicité et vagabondage par le tribunal de Vitry-le-François. Ah, vous vous en rappelez, monsieur d'Hervincourt. C'était vous-même qui présidiez. Oh, vous étiez à Vitry à cette époque. Comme il y a longtemps que nous nous connaissons tout de même, monsieur d'Hervincourt. Ah, ça nous rajeunit pas. On vous regrette bien aller là-bas à Vitry. Qui donc me regrette? Mais tous les bons zic comme moi. Moi, je préfère vous avoir ici, vous comprenez. Et puis la prison de Vitry ne vaut pas celle de Barre. Elle est située en plein nord. Silence, mais vous vous corrigerez donc jamais, Césarin. Vous retomberez donc toujours et toujours dans les mêmes délits, vos péchés d'habitude, tapage, violence, vagabondage. Voulez-vous, mon président, faut bien rire. Ah, vous appelez ça à rire. Vous savez de quoi il s'agit aujourd'hui? Du scandale que vous avez causé lundi dernier dans la rue entre deux ponts. Scandale, oh misère! S'il n'y avait pas tant de badauds! En ce moment, Césarin, apercevant un des assesseurs, le petit père Brion, tirait sa tabatière et humait une prise, s'avise soudain de rompre les chiens. Oh, monsieur Brion, je prendrais bien si volontiers une prise, moi aussi. Dis donc, gendarme, mon ami, allez donc chercher la tabatière. Veuillez répondre à mes questions, Césarin, clame monsieur d'Hervincourt, et ne pas vous occuper de ce que fait le tribunal. Ça ne vous regarde pas. Mais mon président, je connais monsieur Brion tout comme vous. C'est la bonté même, le meilleur des hommes. Il se formalise pas, allez. Silence, Césarin, assez. Revenons à la scène déplorable qui s'est passée lundi. Était-ce le petit père Brion qui s'était laissé attendrir ou quelques loustiques de l'assistance qui trouvaient l'occasion de se divertir? Tant il y a que de main en main, une tabatière arriva jusqu'à Césarin. Ce fut son voisin, son ami, le gendarme, qui la lui présenta. « Oh, monsieur Brion, vous êtes donc bien gentil. Merci bien. Oh, tchou, oh, tchou, oh, tchou. Quand vous y serez, je continuerai, César. Hein? Quel supplice que d'interroger ce... Voilà, monsieur Delvincourt, voilà, tout à vos ordres. Ah, ça va mieux. Ça m'a ravigoté le cerveau. Merci encore, monsieur Brion. Lundi dernier, donc, la très honorable épouse de monsieur le préfet, du premier fonctionnaire du département, revenait de faire visite à l'épouse de monsieur le receveur des finances et suivait le trottoir d'entre deux ponts. Quand vous êtes approché d'elle, et avec la plus choquante persistance, l'avez invitée à prendre votre bras. « Eh ben, mon président, où est le mal ?»« Ça me chiffonnait de voir, madame la préfète, une dame si distinguée, se promener toute seule. Et alors, par pure politesse, un vrai chevalier français, À cet endroit, des rires éclatent dans la salle. Césarin se retourne et s'adressant à l'assistance. « Vous avez beau rire bêtement comme ça, je dis la vérité. Césarin, tournez-vous vers le tribunal. Vous ne devez pas parler au public. »« Ben, ils doivent pas rire, nous sommes pas ici pour nous amuser, n'est-ce pas, mon président ?» Maintenant, regardez-moi donc là-bas, ce grand igloudio qui ouvre une gueule comme un four. Et écoutez-le ricaner, cet imbécile-là. Dirait-on pas un âne qui brait ? Yon, yon, yon. Césarin, encore une fois, ayons donc au moins le respect. Retournez-vous, voyons. Retournez-vous, vous dis-je. Voilà, présent. Lui sommes, monsieur Delvincourt. Mais où en étions-nous donc restés ? Ces manables m'ont fait perdre le fil. Ah oui, oui, par galanterie française, alors je propose à même la préfète de l'accompagner jusqu'à sa porte. Elle répond pas. Est-ce poli, ça ? Alors je renouvelle ma demande. Oui, avec acharnement. Vous vous attachez au pas de cette pauvre dame qui ne sait comment se dérober à vos obsessions. Les passants s'amassent, les négociants du quartier... et leurs commis sortent des magasins. Enfin, apparaît l'agent de police, Simoneau. Pauvre, qui vaut pas cher, oh, le seul oiseau. Il vous enjoint de circuler. Mais de quoi qu'il se mêle, ce vilain merle ? Je vous le demande un peu. Vous le repoussez. Pardon, oh, c'est lui qui a commencé par porter la main sur moi, monsieur Delvincourt. Et pour vous retenir et dégager, madame la préfète, et vous le traitez de propre à rien, de feignant, canaille, crapule, tous les mots de votre joli vocabulaire. Vous avez peut-être bu un petit coup de ton ce jour-là. C'est possible, mon président. Oh, c'est même certain. Vous étiez ivre à ne pas vous tenir debout. Et le tribunal, ayant octroyé à Césarin 4 mois de prison, 4 mois ? Oh, mais c'est justement la quantité que je désirais, monsieur Delvincourt. Vous êtes bien aimable. Merci bien. À la prochaine, monsieur Delvincourt, et à Charles de revanche, vive l'empereur ! Césarin, qui, à l'exemple d'un autre joyeux luron et intrépide buveur, vescussant du le pansement, se laissant aller doucement la bonne loi naturelle, est mort l'an passé à l'hôpital de Bar-le-Duc. Et d'après certains ont dit, cette mort serait due moins à l'âge et aux infirmités qu'à une atteinte portée à ce vieux renom de probité dont il était si fier. Comme bon nombre de besogneux et claque-dents, Césarin avait ses bienfaiteurs attitrés chez qui il se présentait à jour fixe. C'est ainsi que chaque jeudi matin, il n'avait qu'à sonner à la porte de madame veuve... appelons-la madame Lefebvre, pour recevoir soit un quignon de pain et quelques rogatons, soit une pièce de 2 sous. Un jeudi de novembre, voyant la porte grande ouverte, il jugea inutile de tirer le pied de biche de la sonnette et s'avança lentement en frappant sur les dalles avec son bâton pour annoncer sa présence jusqu'à l'extrémité du corridor, au seuil de la cuisine. C'est à cette place que madame Lefebvre, après une courte absence faite dans le voisinage, le trouva. Il attendait, patiemment et placidement, qu'elle voulût bien se montrer. Elle fouilla dans sa poche et lui donna ses 2 sous habituels. « Bon, vous remercions 1000 et 1000 fois, Madame Lefebvre. À jeudi, votre serviteur. »« Oui, à jeudi. Au revoir, Césarin. Tirez la porte, n'est-ce pas, en vous en allant. »« Bon crépant. Bel bonjour, Madame Lefebvre. » Quelques heures plus tard, en ouvrant la grande armoire qui occupait tout un panneau de sa cuisine, et où elle serrait à la fois son linge, ses robes et une partie de ses provisions, Madame Lefebvre s'aperçut que sa bourse, une antique petite pochette de cuir en forme de blague à tabac, qu'elle avait toujours soin de glisser sous une pile de draps, avait disparu. Voilà la brave femme aux 100 coups. Elle se précipite hors de chez elle, tombe chez ses voisins et leur conte la chose. « Ben, il n'y a que Césarin qui soit entré chez vous. Nous n'avons vu que lui. » « Oui, je l'ai surpris dans ma cuisine. Ah oui, cela ne peut être que lui, pour sûr, c'est lui. » Évite de courir chez monsieur le commissaire et de déposer une plainte contre le vieux loqueteux. Précisément, ce jour-là, Césarin avait eu la bonne aubaine de rencontrer un commis voyageur qui l'avait chargé de différentes courses, entre autres du transport de ses bagages à la gare, et lui avait généreusement alloué pour sa peine 3 pièces de 20 sous. Ces 3 francs, Césarin s'était naturellement empressé de les verser à ce qu'il nommait ironiquement et de si bon cœur ses caisses d'épargne, c'est-à-dire dans les auberges et débits de vin échelonnés le long du faubourg de Marbeau, et le soir venu, il zigzaguait, chamboulait et vociférait mieux que jamais à travers les rues. Un agent de police, peut-être ce même Simoneau, le susdit vilain merle avec qui il avait eu tant et tant de fois maille à partir, le ramassa auprès d'une trappe de cave qu'il s'obstinait à prendre pour son lit et le traîna qu'à un cas au violon. Le lendemain, redevenu maître de lui, calme et dispos, Césarin recevait à vie des soupçons qui pesaient sur lui, de l'infamante accusation portée par Madame Lefebvre. Il protesta, jura ses grands dieux qu'il y avait erreur, qu'il était innocent, cria, s'emporta, se débattit comme un diable. Monsieur le commissaire, devant les déclarations des détaillants de Marbeau, qui, indice grave, avait vu, entre les mains de Césarin, plusieurs pièces blanches, avertit le procureur de la République et fit prendre au pauvre vieux le chemin qu'il connaissait si bien, le chemin de la prison de la vieille haute. Mais cette fois, les gamins avaient beau le saluer de leur plus joyeux vivat, lui emboîter le pas et l'apostropher et le provoquer de main de façon. Hé, Césarin, où vas-tu donc, Césarin ? Tu trouves donc qu'il commence à faire froid, etc. Aucune riposte ne sortait de sa bouche. Il avait rabattu sa casquette sur son front et, l'œil morne maintenant et la tête baissée, il marchait tout honteux entre les 2 gendarmes, les mains sous sa blouse, comme un voleur. De prime abord, M. Richard, le gardien-chef, ne le reconnut pas. Il essaya de le réconforter, de lui remonter le moral. « Voyons, Césarin, ne te désole pas. Si tu es innocent, comme tu l'affirmes, on te relâchera. C'est l'affaire de quelques jours, le temps de retrouver ce voyageur qui t'a donné ses 3 francs. Allons, courage, mon vieux, secoue-toi. Reprends ta bonne mine et ta bonne humeur. Faut bien rire, comme tu dis, alors. T'as donc oublié ta devise ? » Césarin se borna à hocher mélancoliquement la tête. « Mais que diantre, c'est cependant pas la première fois que tu viens en pension chez moi. »« C'est vrai, monsieur Richard, oui, mais les autres fois, voyez-vous, c'était pas la même chose. » Mais c'était cependant au début de l'hiver, aux premières gelées, juste à cette époque, répondit facétieusement le gardien-chef. Mais c'était pas la même chose, murmura de nouveau Césarin, toujours sombre, soucieux, plein de confusion, accablé. Le surlendemain, il fallut le transporter à l'infirmerie. Il avait la fièvre et ne pouvait plus se tenir debout. En outre, il était fortement oppressé, toussait, suffoquait. On craignait une pneumonie. Sur ces entrefaites, Madame Lefebvre, en rangeant des pots de confiture dans sa grande armoire, retrouva la blague du cuir qui lui servait de bourse. Poussée trop loin sous la pile de draps, la pochette avait glissé dans un interstice entre la tablette et le fond et était tombée sur le rayon inférieur derrière des bocaux de conserve et des fioles de cassis et de fignolettes. Désolée de sa déplorable erreur, Madame Lefebvre se hâta de prévenir la justice et de retirer sa plainte, s'offrant d'ailleurs à réparer de son mieux le tort qu'elle avait pu causer au malheureux Césarin. Quand le commissaire de police et le gardien-chef pénétrèrent dans la salle où gisait le malade, ils lui firent part de la nouvelle. Deux larmes lui montèrent aux yeux et roulèrent le long de ses joues hâves et flétries. Je vous l'avais bien dit, bégaya-t-il. Et il ajouta, toujours d'une voix entrecoupée, Monsieur Richard, excusez-moi, vous avez toujours été gentil pour Césarin, vous en remercie, mais c'est pas pour vous fâcher. Je voudrais bien m'en aller, puisque je suis pas coupable. Mais tu attendras bien au moins que tu sois rétabli ou que le printemps soit revenu. J'aimerais mieux, faut pas m'en vouloir, monsieur Richard, mais puisque j'ai rien fait de mal, j'aimerais mieux être soigné à l'hospice. On profita d'une amélioration survenue quelque temps après dans l'état de Césarin pour le transporter, selon son désir, à l'hôpital de la ville. À la première visite que lui fit le médecin en chef, le docteur Michel, un brave cœur et un bon vivant, pas fier, qui l'avait souvent glissé la pièce en rue et lancé quelques gais brocards. « Oh, monsieur Michel, soupira-t-il, ça va pas? Non, je crois bien que je suis fichu. Que me chantes-tu là? Oh, chante pas, monsieur Michel. Je vous dis que je suis fumé. Mais non, mon vieux César, mais non. Tu te mets martel en tête. Qu'est-ce qui m'a bâti un poltron comme ça? Veux-tu bien me chasser ces sornettes-là? Et tout de suite? Je te dis, moi, je m'entends mieux que toi, nom d'un petit bonhomme. Je te dis qu'avant 15 jours, tu seras sur pattes et qu'on te reverra prendre la goutte à tous les coins de rue. Ce serait trop d'honneur. Faire le moulinet avec ta canne sur la place Reggio ou dans la Rochelle et nous jouer devant toutes les portes des airs de ton flageolet. Oh, monsieur Michel, je voudrais bien vous croire, mais j'ai beau essayer. J'ai idée, voyez-vous, j'en sortirai d'ici pour aller à Sainte-Marguerite. Le pauvre Césarin ne se trompait pas. Après avoir traîné et résisté 2 ou 3 semaines, il succomba et sa dépouille repose aujourd'hui dans l'agreste cimetière ou cimetier consacré à Sainte-Marguerite et qui s'étale au bas du coteau boisé de Maastricht. Toujours soucieux de rendre hommage aux gloires locales, quelles qu'elles soient, les journaux de la ville et du département, ceux même des départements limitrophes, ne manquèrent pas d'annoncer cette mort à leurs lecteurs et de publier des notices biographiques détaillées et de longs articles critiques et humoristiques sur le fameux, l'inoubliable Césarin. L'un d'eux, un périodique illustré, Le Barbare, alla même jusqu'à invoquer Phébus et enfourcher Pégase en l'honneur de cet homme qui, de notre cité, fut en somme une célébrité. Mais la plus éloquente et la plus touchante de ces oraisons funèbres, ce fut, le croirait-on, l'agent de police Simoneau, l'implacable ennemi et la bête noire de Césarin, qui la prononça. Simoneau avait beau se répéter que dorénavant les populations confiées à sa garde pourraient vaquer à leurs affaires sans craindre d'être blasonnées et tympanisées, dormir leur suffisance sans avoir à redouter les sons du flageolet ou quelques bachiques d'un tamar, Césarin lui manquait. Involontairement, en faisant ses tournées dans la ville, il le cherchait d'un œil attendri, il le revoyait. Pur mirage, cruelle désillusion. « Et dire, s'exclamait-il dans sa péroraison, dire que cet insatiable et incorrigible délinquant, ce pauvre Césarin, qui avait été 52 fois en prison et toujours sans rechigner de si bon cœur, est mort de chagrin pour y être allé une 53e. »